à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc aujourd'hui, nous allons parler cinéma avec Myriam Charles, qui est réalisatrice et qui, dont le premier long métrage, Cette maison, a été sélectionné à la Berlinade, qui se tient du 10 au 20 février 2022 à Berlin. Donc c'est très important. Et puis le sujet est très intéressant. On en parle avec elle dans un instant. En deuxième partie d'émission, on a Jamin Stouki qui est avec nous, bien sûr. Bonjour Jamin.
Bonjour à tous.
Pour son billet d'humeur qu'il a intitulé « Alléluia, les médias ». Voilà. Alors on en parle dans un instant. On démarre avec Bouche Bée, comme au cinéma.
Un, deux.
Puissant vient par le nord, implacable météore sur nos envies. On est là à l'attendre sur le port, comme pour conjurer le sort.
Alors on vient d'entendre Bouche Bée qui nous chantait comme au cinéma et on reçoit, comme je vous annonçais tout à l'heure, Myriam Charles. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup de m'accueillir. Merci.
Ah bah ça me fait très plaisir parce que c'est très intéressant. Donc on va parler de ce qui est votre premier long métrage puisque vous avez fait pas mal de courts métrages.
Oui, c'est bien ça.
Et celle-ci, ce long métrage qui s'appelle Cette maison et qui a été, qui va passer à la 72e édition de la Berlinade du 10 au 20 février. C'est bravo pour ça.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Bravo, on va en parler dans un instant, mais on va d'abord commencer le cinéma. D'après ce que j'ai lu sur vous, le cinéma a toujours fait partie de votre vie. Vous aimez ça depuis l'enfance?
Oui, depuis l'enfance, mais c'est surtout l'expérience aussi de regarder des films en famille.
Oui.
Chez moi, on était, on est encore, on est quatre enfants, deux parents, personne ne pouvait nécessairement écouter, que ce soit un film ou une émission toute seule.
Je comprends ça.
On avait une télé, donc tout le monde, quand on voulait regarder quelque chose, il fallait que ça fasse aussi l'unanimité. Donc, c'est le fait de regarder, d'être ensemble, de regarder. Et puis, dans ma famille, ce qu'on fait encore, malheureusement, mais juste à la maison, pas au cinéma, c'est qu'on commente le film ou l'émission. On parle beaucoup par-dessus. Je m'excuse pour tous les auteurs, les comédiens, mais c'est ce qu'on faisait quand on était enfants. On commentait l'histoire, puis on parlait sur ce qui arrivait. Donc, c'est cette expérience conviviale d'être
Oui.
ensemble, puis de vivre un moment ensemble.
C'est sympa. Je l'ai fait aussi, hein, donc je ris, je sais pourquoi je ris, je ne me moque pas, je suis dedans aussi.
Ça s'appelle du cinéma vivant.
Et encore,
Exact.
il m'arrive même parfois de parler toute seule devant ma télé quand j'ai
Moi aussi,
personne
moi
avec moi.
aussi.
Pas que devant ta télé.
Pas que devant ma télé, paraît-il. Alors bon, j'assume l'humiliation tout de suite.
Bon, ben moi aussi, donc. On est deux, on n'est pas seuls.
Merci Myriam. Comme vous le disiez, l'art est ouvert à tout le monde. Et vos films, courts-métrages, longs-métrages, tissent des liens avec vos origines haïtiennes. Vous êtes pas né au Québec. Vous êtes arrivé
Oui,
au Québec.
je suis née au Québec.
Vous êtes né au
Mes parents
Québec, de
sont.
parents
Oui,
haïtiens.
mes parents sont arrivés. Ils se sont rencontrés ici, mais ils sont arrivés au milieu des
Comme
années
quoi?
70. Comme?
Et comme quoi, je dis, ils sont rencontrés ici.
Ah oui, ben oui, c'est ça arrive. C'est ça, ils se sont rencontrés à Montréal. Ils sont mariés, ils ont eu quatre enfants. Et puis quand j'étais jeune, surtout l'hiver, là, moi, j'ai une relation un peu plus avec l'hiver. Mais j'avais appris sur l'histoire d'Haïti. Et
Oui.
puis je savais enfant qu'en Haïti, il faisait chaud tout le temps. Donc à chaque
Oui.
hiver, je demandais à mon père, mais pourquoi t'es venu ici?
Il y a des tas d'autres raisons qui font des fois qu'on part
Oui, oui, oui.
de
Enfant,
notre
mais
pays
enfant, on ne sait
d'origine.
pas, on sait pas, on ne
Oui.
connaissait pas la politique et tout ce qui s'était passé à
Bien
l'époque.
sûr.
Mais quand même, cette envie de retourner là en Haïti était très présente chez moi quand j'étais enfant. Donc, quand j'ai commencé à écrire, à penser, à faire du cinéma, je me suis toujours dit que j'allais retourner en Haïti, tourner, au moins tourner des films, si ce n'était que d'aller y vivre. Dès que j'ai eu cette opportunité-là, mon premier court-métrage se déroulait en Haïti. Puis j'ai continué. On dirait que je peux pas couper ce lien-là. Il y a toujours une
Oui,
partie haïtienne
voilà.
dans
Après,
ce que
c'est
je fais.
la famille haïtienne à qui il arrive des aventures autre part, mais il y a toujours quelque
Oui,
chose, il y a toujours
exact.
le lien avec la famille de cette façon-là. J'avais lu aussi qu'il y avait un de vos profs, quand vous étudiez au cinéma, qui vous avait dit en cinéma, tous les chemins sont différents. Et c'est quelque chose
Oui.
qui vous avait beaucoup marqué.
Oui, ça m'a beaucoup marqué parce que quand on étudie le cinéma puis qu'on regarde autour de nous dans le milieu artistique, c'est un peu, on dirait que c'est une course aussi de savoir une course au succès, réussir jeune d'une certaine façon,
Voilà.
ça a plus de valeur. Mais une fois que j'avais entendu mon professeur qui m'avait dit dans le fond, le succès, c'est relatif aussi,
Oui.
et qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, moi, ça m'a calmée, en fait. Parce que je me suis dit, j'ai juste à être persévérante, à continuer, puis à ne pas arrêter. Puis, si ça m'arrive à 30 ans, ça sera à 30 ans. Si ça m'arrive à 22, 24, ça sera à 24 ans. Mais je sais que si je continue, il y a des chances que ça fonctionne pour moi. Donc là, je fais mon premier long métrage, j'ai 36 ans. Dans ma tête, à moi, ça serait peut-être arrivé plus tôt, surtout quand j'étais début vingtaine. Je me
Oui.
disais que. Mais depuis, je me dis que c'est le travail. En continuant à travailler et en persévérant,
Oui.
peu importe l'âge où on est. C'est ça, c'est des chemins différents. C'est pas tout le monde qui
Oui,
va
c'est
arriver
ça.
à 23 ans avec un long métrage.
Non, puis il y a une forme d'expérience aussi qu'on a
Oui, aussi, aussi,
du
exact.
vécu qui nous est arrivé, qui nous forme et qui fait que voilà ce qu'on raconte est différent après. Mais oui, parlons un petit peu du nerf de la guerre pour tout ce qui est cinéma, que ce soit court ou long métrage. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir des subventions?
je dirais que oui, mais ce qui m'a aidée d'une certaine façon, c'est que j'ai pas nécessairement commencé comme réalisatrice, en fait.
D'accord.
Quand j'ai terminé l'université, j'avais pas assez confiance en moi pour écrire et réaliser mes projets. Parce qu'à la base, je suis un peu timide, donc ça m'aidait pas beaucoup. Mais j'ai commencé en faisant de la caméra. Oui. Et aussi en produisant, en fait, les films de mes anciens camarades là, d'université. Donc, je faisais beaucoup de productions indépendantes, là, sans subvention, surtout parce que je savais pas nécessairement comment écrire des demandes de subvention, comment présenter des projets.
C'est un travail, ça aussi.
On nous apprend beaucoup, en fait, à l'université. C'est peut-être différent maintenant, mais à l'époque, quand moi j'ai étudié à l'Université Concordia, un super, super bon programme, il n'y avait pas nécessairement de cours sur la rédaction de demandes de subvention.
D'accord.
Donc, on sort de l'école, on est là avec toutes nos belles idées, nos idées de grandeur, mais on ne sait pas nécessairement comment présenter un projet aux institutions. Puis pendant des années, j'ai fait des demandes de subvention, autant en tant que productrice qu'en tant que réalisatrice plus tard. Je ne dis pas que mes projets étaient pas bons, mais je pense qu'ils étaient mal présentés. Donc, j'étais refusée. Donc, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Mais j'étais aussi assez débrouillarde pour trouver une façon de faire les projets sans être financée. Donc, mes premiers courts-métrages, les quatre premiers, je les ai faits sans financement. Avec un salaire que je mettais de côté. puis j'ai été bien entourée. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont aidée. Des acteurs qui ont accepté de participer au projet avec des salaires
oui.
très loin des normes de
oui. ou pratiquement inexistants, on va
oui,
dire ça comme ça.
Oui, exactement, mais des bons repas, il y avait toujours des bons repas, je tiens à le préciser, parce que je suis d'origine haïtienne, je ne peux pas.
La famille était là.
exactement.
Alors, Myriam, on va parler de cette maison dans un instant, mais là on va faire une petite pause musicale. On va partir avec Albin de la Simone qui nous chante « J'aime lire » et puis on se retrouve tout de suite après ça.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. Ces histoires.
voici de retour avec Myriam Charles, donc réalisatrice, pour la sélection de son premier long métrage qui s'appelle Cette maison. Alors, Cette maison, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça mélange documentaire et fiction. Et c'est quelque chose qui vous touche de très près, puisque ça parle d'une histoire qui s'est passée dans votre famille, d'un décès.
Oui, exactement. C'est à cette base, en fait. Sur la mort de ma cousine en 2008 aux États-Unis, qui est morte, qui a été victime en fait d'un meurtre dans sa maison. Elle avait 14 ans à l'époque. Puis,
excusez-moi, crime raciste?
Non, c'est vraiment, c'est sans aller dans le détail, non, en fait, pas du tout.
Non, pas du tout, d'accord.
Pas du tout. Mais c'est une histoire qui m'a marquée, puis qui a marqué ma famille, puis qui continue en fait à nous marquer. Puis j'ai décidé, je suis un peu, pour tous mes projets, j'essaie de, je dis que j'appelle mon courage, donc j'essaie de trouver des sujets qui me forcent à être courageuse.
Oui.
Donc pour ce premier long métrage, je voulais en fait rendre hommage à ma cousine, à sa mère, une femme que j'aime et que j'admire, et je voulais être un témoin d'une certaine façon de leur amour entre les deux qui existait durant ces 14 ans. Et puis j'ai décidé d'une certaine façon, peut-être pour me protéger, d'avoir recours à la fiction. Et de les imaginer comme ça, les deux réunis le temps d'un film. Donc, j'ai imaginé ma cousine adulte. Elle aurait autour
voilà,
de 26.
C'est ça. 26, comme si elle se voyait.
27 ans. Exactement. Comme
d'accord.
Si elle se voyait avoir des discussions comme ça avec sa mère le temps d'un film. Donc, c'est une histoire d'amour, en fait.
Ah ben oui, mais c'est très beau. J'ai vu que vous pouviez pas, vous n'avez pas pu, à cause de la pandémie, aller tourner en Haïti.
Oui, exactement. Je faisais un film sur le deuil et c'était un autre deuil, d'une certaine façon,
oui.
De ne pas pouvoir retourner en Haïti pour des raisons politiques, des raisons aussi d'assurance. Les assureurs étaient très fébriles.
Ah oui, d'accord.
De nous envoyer tourner avec une équipe de tournage en Haïti. Même si je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà fait dans un petit, avec une petite équipe là, qui attirait pas du tout l'attention, alors que là, on était quand même une grande équipe, donc ça créait un stress. Puis je voulais pas créer ce stress-là non plus pour l'équipe. Donc ce qu'on a fait, c'est que je suis allée tourner. On a fait deux choses, en fait. On a tourné on a recréé Haïti en studio à Montréal.
Ah, joli!
C'est un bel hommage. On a fait ce qu'on a pu, c'est qu'on a recréé Haïti en studio. Puis pour certains extérieurs, je suis allée tourner à Sainte-Lucie, sur l'île de Sainte-Lucie, pour comme créer ce semblant d'Haïti. Moi, je pense que tous les Haïtiens vont reconnaître tout de suite que c'est pas en Haïti, mais en même temps, je l'assume.
Voilà, mais nous, on va y croire pour tous ceux qui connaissent pas, et on va rentrer dans cette histoire-là. Là-dessus, je trouvais ça très, très joli et très intéressant de la faire vieillir et se regarder. Se regarder dans ce court passé qu'elle a eu sur Terre. Voilà.
Oui, et c'est surtout aussi que je voulais pas que son histoire, c'est quand on perd quelqu'un de manière violente, on dirait que tout se ramène à cette mort violente, alors qu'il y a autre chose. Il y a eu tellement de moments de bonheur, de joie, d'amour, que j'essayais de à travers le film, de moi-même de me rappeler que ça aussi, ça existait.
De vouloir en parler et puis de laisser une histoire là-dessus. Eh bien, joli moment. Alors, on parle Berlinade, 72e édition. Donc, c'est un festival cinématographique qui a été créé, j'ai regardé ça, en 1951, date pas d'aujourd'hui.
C'est un festival très, très important en Europe, effectivement.
Ah oui, très, très important et qui se tient à Berlin au début de février, donc entre le 10 et le 20 février.
Je crois que le prix, c'est un ours, hein, si je ne m'abuse.
Oui, exactement, un ours d'or.
Un ours d'or. Et alors, comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre film a été sélectionné?
J'y croyais pas, en fait. Je pensais le producteur qui m'a appelé, je pensais qu'il me faisait une blague en fait. J'étais comme.
Ah oui.
Mais c'est pas une bonne blague à faire, mais j'étais certain que j'étais comme non, c'est pas vrai. Puis ensuite, gros moment de joie où je pensais juste à appeler ma mère. Ensuite, j'ai appelé ma mère. Là, j'essayais de lui expliquer. Puis ma mère, elle suit ma carrière et tout, mais pour elle, d'une certaine façon, Berlin, ça veut rien dire. J'aurais pu lui dire Shawinigan. Je pense que ça aurait fait le même. Elle était contente, mais tu sais, moi, j'essayais de lui expliquer à quel point c'était gros.
Ah oui, c'est quelque chose de très reconnu.
Exact. Elle était comme bravo. C'est très drôle comme moment.
Comment s'est passée la sélection? Est-ce que c'est toi qui as pensé à te proposer? Voilà, c'est le producteur. Comment ça s'est déroulé?
C'est le producteur, en fait, parce que dès le début, quand on comprend un peu comment fonctionnent les festivals, on savait que mon film allait être un peu atypique, un mélange entre fiction et documentaire, avec un peu de cinéma d'expérimentation. Donc, le producteur sentait que c'était un projet qui ressemble à des projets qui ont été pris, sans dire que ça ressemble à un film qui a déjà été sélectionné à Berlin, mais le Festival de Berlin est quand même connu pour son rapport au cinéma d'art, à l'expérimentation, aux films qui sont peut-être moins classiques dans leur structure. Donc, c'était notre plan A, on va dire ça comme ça.
Oui.
Donc, le fait que ça ait été sélectionné, là, on est juste trop contents. Là. Toute l'équipe est très, très, très contente.
Il y en a d'autres qui seraient peut-être prévus ou tu souhaiterais?
Mais on ne sait pas encore. Là, on va commencer d'une certaine façon la carrière festival du film. C'est sûr que il va y avoir d'autres festivals, lesquels je ne sais pas. Moi, je suis un peu étrange dans la mesure où j'ai pas nécessairement d'ambition en tant que telle au niveau des festivals. Je suis tellement juste heureuse d'avoir terminé un film dont je suis fière, que tout ce qui vient après, c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc je vais être contente. C'est certain que je veux que le film soit présenté à Montréal, dans un festival à Montréal, pour que ma famille puisse le voir,
oui.
Parce qu'ils l'ont pas encore vu. Je serais très, très, très contente là, si le film est sélectionné dans un festival à Montréal pour qu'on puisse célébrer en famille.
En famille et puis avec nous tous ici pour voir un peu...
Oui.
Comment Haïti a été reformé à Montréal.
Exactement, c'est beau défi.
Myriam, on arrive à la fin de cette entrevue. Merci beaucoup.
Ah, merci à vous.
D'avoir été là, et puis je trouve ça très, très intéressant. Donc ça veut dire que là, on relance sur un long métrage prochainement. Enfin, d'abord, vous allez à Berlin et puis vous verrez bien.
Oui, exactement.
Alors,
pause.
Ouais.
Et puis ensuite, je vais me lancer sur le prochain projet.
Bon voyage. Le mot de Cambronne pour vous porter chance. Et voilà. Plein de bonnes choses et revenez avec un ours en or. Bravo à vous.
Merci.
Merci.
Au revoir.
On se quitte avec Carla Chanel qui nous chante Fleurs. Ne me regarde pas, ça t'est pas destiné. Jamais.
Jette-moi.
Et voilà, donc maintenant, on vient de quitter Myriam Charles, mais restez avec nous, parce que Jamin Chtouki est là pour nous parler de son billet d'humeur, dont je ne connais pas le texte. Je sais juste que le titre, c'est « Alléluia les médias ». Je n'en dirai pas plus, j'attends, comme vous, de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce texte-là. Donc, à tout de suite, restez avec nous. Jamin, c'est à toi dans un instant.
Si vous aimez les jalapenos, ce sera bon pour vous.
Faramineux avec Arlette Farah.
Encore le vide du mauvais bord du lit. Hangover, c'est pas une comédie. Comment régler un problème quand tu glorifies un trou dans la tête et dans les économies. Il faut que je prenne de l'air, faut que je sorte d'ici. Je fais du surplace comme un colibri. Y'a une fille dans ma chambre, je sais pas c'est qui. Elle me dit qu'on est ensemble depuis 6 mois et demi. Damn, perdu la mémoire comme un sans génie. Je regarde dans le miroir puis j'ai enlaidi. Lifestyle dégueulasse puis c'est sans répit. Ça laisse des traces comme un vaisseau dans un champ d'épis. Encore perdu les pédales, j'suis fini final. J'suis le réal de mon propre film qui finit mal. La tête sur le bord explosé. Puis c'est encore la même question qu'on va me poser.
T'as-tu dormi sur la corde à linge? 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 Corey Hart, t'as-tu dormi sur la corde à linge? T'as-tu dormi sur la corde à linge? T'as-tu pris une marche dans Rivière-Saint-Charles? T'es-tu vu la face d'où t'es méconnaissable? Tu cries quand tu me parles pis t'as l'air instable. Je connais les meilleures places pour laver ton linge sale. T'as-tu pris une marche dans Rivière-Saint-Charles? T'es-tu vu la face d'où t'es méconnaissable? Tu cries quand tu me parles pis t'as l'air instable. Je connais les meilleures places pour laver ton linge sale.
Hey yo, Ghost et la famille, la copine et le patron. Ghost sur les papiers, le gin dans le flacon. Hein? Les deux yeux dans la graisse de bin. Pis j'pense que j'ai trouvé Dieu dans mes pants de pitch. J'ai toujours la même histoire à tous les soirs quand on part fort. C'est mon cadavre qu'on ramasse dans les corps morts. Amy Winehouse à l'épaule, m'envoyant en rehab, j'suis comme nah, j'ai beau faire un fou de moi, d'où j'm'en sac. J'ai besoin qu'on me remarque quand j'suis en place. J'parle en caps, comme Marie Chantal. Plus c'est trash, plus j'embarque dans tes plans de merde. Shot sur la table, payé sur la carte. Pas de tarif pour les dommages de mon sabotage. La tête sur le bord explosé. Puis devine c'est quoi la question qu'on va me poser.
T'as-tu dormi sur la corde à linge? 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 Corey Hart, t'as-tu dormi sur la corde à linge? T'as-tu dormi sur la corde à linge? T'as-tu pris une marche dans Rivière-Saint-Charles? T'es-tu vu la face d'où t'es méconnaissable? Tu cries quand tu me parles pis t'as l'air instable. Je connais les meilleures places pour laver ton linge sale. T'as-tu pris une marche dans Rivière-Saint-Charles? T'es-tu vu la face d'où t'es méconnaissable? Tu cries quand tu me parles pis t'as l'air instable. Je connais les meilleures places pour laver ton linge sale.
Voilà, donc on vient d'entendre Corias qui nous chantait Corde à linge. Corde à linge, est-ce que c'est peut-être la façon, Nicolas, dont on va être pendu par Jamin quand il va nous parler? Je n'ose penser que nous allons sécher
tout de
suite,
cette
manière.
Pourquoi c'est vous? Tu te sens concerné? Alléluia, les médias. Ah,
je ne sais pas, mais j'ai envie de me moquer de toi à ma manière. Et tu sais que j'aime bien le faire toujours de cette façon-là.
Ah
et
bon.
Je vais essayer de changer. Donc, Jamin, c'est à toi pour ta chronique.
Alors, bon, alléluia, trois petits points, les médias. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que je suis agnostique. Vous savez ce que ça veut dire,
oui.
Agnostique, hein? Parce qu'on confond souvent avec athée. et que ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Un athée, c'est ne croire en rien. Hein ?
Oui.
Absolument rien. Pas de Dieu, pas de croyance, pas de prière, pas d'être supérieur, rien. Hein ? Une vie de spiritualité.
D'accord. D'accord ?
Alors que agnostique, c'est que tu n'as pas de foi, ni de Dieu, ni de prière, mais tu crois ou tu penses qu'il y a peut-être en haut, quelque part, quelque chose hein, qui nous aurait créé, qui nous surveille. Et le meilleur exemple, vous savez, c'est quand on est dans ces moments de déprime, où on est au plus bas, ou lorsqu'on a de grosses tuiles qui n'arrêtent pas de nous tomber sur la gueule les unes après les autres, et que là, on lève les yeux au ciel en se disant ou en criant très fort « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive à moi ? Pourquoi ça tombe sur moi, toujours moi ? »
Parce qu'on en a besoin. On a besoin de nettoyer quelque chose chez nous.
On ne prie pas. On ne fait pas d'offrande. On ne croit pas en quelqu'un qui nous pardonnerait nos fautes ou récompenserait nos bonnes actions. Mais on s'adresse au ciel, à cette chose au-dessus. Hein, vous voyez ?
Tout à fait.
Eh bien, ça, c'est moi. Et même quand ça va bien, je parle au ciel. Oui, oui. Et ça me réconforte. Oui.
Et il te répond ?
S'il pleut, oui. Mais donc, on ne m'a pas imposé une religion, une idéologie, un dogme. Non, non. Simplement, je m'adresse à personne.
D'accord.
Et donc, mes vœux ont été exaucés par Dieu le Go. Les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir. Alléluia, mes frères et mes sœurs. Youpi ! Alors, quand les informations ont commencé à fuiter avant les annonces officielles de Legault, parce que, au contraire des artistes qui gardent le punch pour la fin du show, lui, il commence toujours ses histoires par la chute de la joke, la fin de l'intrigue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas drôle. Et tu sais pourquoi il fait ça ? Il fait ça pour être certain que cela contente le public, qu'il continue à plaire. Sinon, il change la chute. Et c'est là qu'on voit qu'il maîtrise mal l'art de la dramaturgie et qu'il manque totalement d'imagination et de courage. Bon, ok, je vais y aller mollo. Ça, c'est pour ceux qui ont les références. Hein.
Oui.
Donc...
On a bien compris qu'il y allait mollo pour les ouvertures.
Donc,
c'était le texte.
Quand ça a commencé à fuiter au sujet du début, du commencement, de l'amorce, du démarrage d'un éventuel assouplissement, eh bien, il était question d'ouvrir les lieux de culte le 31 janvier, mais pas un mot sur les salles de spectacle. What ? Legault a pensé ouvrir les lieux de culte avant les lieux culturels ? Ben voyons donc. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller à la mosquée, à l'église, au temple, à la pagode pour assister à des cérémonies religieuses, mais pas au théâtre, une salle de danse ou au cinéma pour assister à des cérémonies païennes ? Oui, aux grenouilles de bénitier, mais non aux amateurs de variété. Et tout ça dans un État qui se prétend laïque ? Iche ! Et en plus, Luc Boileau, la nouvelle marionnette directeur intérimaire de la santé publique, a affirmé que la religion est un service essentiel. Pardon ? Un service essentiel ? Attends, un service essentiel, c'est se nourrir, se loger, se soigner, hein ? Et si vous élargissez votre définition d'essentiel à nourrir l'âme, alors vous devez aussi l'appliquer aux arts pour nourrir l'esprit.
Évidemment.
Vous êtes en train de dire que la culture n'est pas essentielle. Bien entendu, tout le milieu culturel québécois s'est senti insulté, offusqué. Parce qu'en plus, il a rajouté « Oh, c'est du divertissement. » Je referme la parenthèse.
Quelle erreur.
Donc tout le monde s'est senti insulté, tout comme moi. Car j'en ai marre d'être considéré comme un moins que rien, qui n'a aucune utilité, qui ne sert qu'à amuser le peuple quand il va mal ou qu'il a besoin de se divertir. Non, non, j'ai l'impression d'être un morpion sur les testicules des politiques. Oui, un parasite. Oui, oui, et j'explique. Oui, oui, un parasite qui profite de la chaleur des politiciens. Politiciens qui s'étonnent ensuite que ça les gratte quand on les dérange. Je suis d'accord avec la pâtissière subversive de Jonquière dans le Saguenay, hein, qui a lancé à l'émission « Tout le monde en parle », je cite « Je suis à bout. Ça me tente pas de me déguiser en juif hassidique pour avoir des droits. » Elle avait tout à fait raison de dénoncer ces deux poids deux mesures. Hein. C'est vrai ça. Pourquoi les policiers ne sévissent pas quand des juifs orthodoxes vont dans une synagogue ou laissent leurs enfants aller à l'école quand elles doivent être fermées ? Mais qu'ils sévissent contre des commerces au bord de la faillite qui sont ouverts en contravention de la loi. Hmm? Et avec tout ça, comme Sophie Durocher, journaliste au Journal de Montréal, j'ai envie de fonder ma propre religion. Oui, ça s'appellerait les témoins de comédia. Les fidèles se seraient appelés les apôtres de Molière. Molière dont on fête ces jours-ci le 400e anniversaire de naissance. Oui. Hein. Et nos rencontres auraient lieu dans des temples appelés Comédie de Montréal, Rideau Vert, Bordel, La Tulipe ou Olympia. On aurait fait brûler des bougies devant la scène afin d'être touché par la lumière. Et comme les vraies religions, on aurait notre mantra et nos prières. Saint Gilles la Tulipe, Saint Raymond de Vos, applaudissez pour nous, riez pour nous et dites-nous à quelle heure est la chute, le punch. Amen. Ça, c'était pour l'Alléluia. Et maintenant, autre sujet, je vais maintenant m'attaquer aux médias, les journalistes, les journaleux. Enfin, journalistes, enfin, qui se prétendent comme tels.
D'accord.
Jeudi dernier...
Les vrais ou les moins?
J'y viens. Jeudi dernier, il y avait la conférence de presse de James William Awad. Savez-vous qui c'est?
Non.
L'organisateur du vol vers le Mexique des 100 dessins ostrogoths, ceux qui ont fait le party dans l'avion, là. Hein? Enfin, donc, d'une bande d'abrutis, quoi. D'accord? Oui, tu as bien entendu. Ce chef d'abrutis a organisé une conférence de presse pour parler du fameux voyage. Et la presse était présente. Et pas un ou deux journalistes. Hein. Non.
Oui, d'accord.
Plus d'une vingtaine. Oui, tu entends bien. Plus de 20 journalistes pour aller écouter un abruti insignifiant. Avec, cerise sur le sundae, un direct de la conférence de presse à la télévision. Oui, tu me fais des gros yeux, tu roules, c'est véridique. Il est passé gratuitement en direct à la télé nationale, ce con. Excusez-moi, quelques petits noms d'oiseaux vont voler, je m'excuse d'avance. Moi, en 6 ans au Québec, jamais j'ai pu passer à la télé. Alors que c'est mon métier, hein. Et ça se dit journaliste. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce con, hein? Il n'y a rien de plus intéressant à faire, ou à dire, ou à commenter, hein, que d'aller donner de l'importance à cet imbécile. On s'en fout. Faut pas en parler de cet abruti. Mais attends, le pire, c'est que tous les journalistes se sont fait fourrer. Oui, car ce gourou ostrogo a essentiellement fait la promo d'un événement virtuel qu'il organise pour la Saint-Valentin.
Oh là 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 là.
Si. Rien de neuf sur le voyage, hein, mais de la pub pour son club privé. Il a même déclaré, j'ouvre les guillemets, « Après le Mexique... je suis allé à Disneyland. Je conseille à tout le monde d'aller à Disneyland. C'est vraiment le fun. » Je cite ce qui a été repris dans la presse. Hein. C'est véridique, je n'invente rien. De plus, les journalistes n'avaient droit qu'à une seule question. Une, sous peine d'expulsion immédiate. Attends, on est dans quel monde là, hein? Parce que même si je le voulais, je n'aurais pas pu écrire cette histoire drôle. Ce gars-là, c'est une légende. Il arrive à se foutre de la gueule des journalistes. Et ces mêmes journalistes n'ont aucune honte à avouer qu'ils se sont fait foutre de leur gueule par cet énergumène dans cette conférence de presse. Aucune fierté. Attends, moi tu me fais ça, je ferme ma gueule, je passe à autre chose et j'en parle surtout pas pour pas me payer la honte. Non, eux, ils font des articles dans les médias, commentent en direct à la télé.
Ah oui, puis des gros médias.
Hein ? Ils lui donnent une tribune, ils contribuent à nourrir son ego déjà surdimensionné. Quelle honte ! Et ça se dit journaliste? Non. Vous êtes des gérants d'estrade, des influenceurs, des chercheurs de scoop, de sensations pour vous faire connaître, vous faire mousser, et non pas pour diffuser de l'information, car vous n'êtes aucunement des journalistes. Ce gars-là, cet ostrogo, a répondu à toutes vos questions par la même réponse. On est dans un monde décentralisé, et je vis dans un monde décentralisé. Tout ça par rapport aux crypto-monnaies qui, soi-disant, ont fait sa richesse.
Oui,
hein.
Oui,
donc, il vit bien dans un monde décentralisé, dans un monde parallèle. Tout comme les médias présents, d'ailleurs. Prenez un miroir et regardez-vous, mesdames et messieurs, les soi-disant journalistes. Vous étiez présents à la conférence d'une personne comme vous, identique à vous. Égocentrique, nombriliste, narcissique, supérieur, hautain, en recherche de reconnaissance et d'existence à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen. Ça fait 30 ans que je suis comédien. Ça fait 6 ans que je joue des spectacles au Québec. Je fais 250 représentations par an en moyenne. Depuis 6 ans, j'ai eu près de 250 000 spectateurs à mes spectacles. Toujours avec succès. Et en 6 ans, je n'ai eu aucun, oui, aucun article de presse. Aucun journaliste des médias nationaux ou des grands médias québécois qui sont venus nous voir. Je vous ai invité à chacun de mes spectacles, à y assister gratuitement et vous n'êtes jamais venu. Non, vous préférez vous traîner dans la boue et la fange avec des imbéciles inintéressants plutôt que d'encourager des artistes de qualité mais non connus. Attention, je ne suis pas aigri ou en colère. Non, je vaux mieux que cela. Mais force est de constater que, malgré vos beaux mots, vos beaux discours sur la culture, mesdames et messieurs des médias, le fait est que vous n'êtes jamais venu voir des comédiens talentueux dans ma salle. Ou d'autres salles underground. Jamais. Mais je me console, car par chance, le public, lui, est venu. Sans vous. Et c'est cela qui me rend heureux.
Si on ne peut plus se toucher, je préfère de loin m'en aller, quitter la ville par le sentier, au parfum des fruits déchirés, faire un amour épistolaire.
Alors on vient d'entendre Collectif 1969 Ariane Moffat, Deux cœurs vagabonds. Merci pour ta chronique. On ne va pas en parler plus que ça parce que tu as déjà tout dit dans ta chronique.
Je pense que j'ai oui, ça a été lourd, c'était bien.
T'as bien été, merci pour ça en tout cas. Et bonne réception à tous ceux qui sont dans ce.
Je ne fais que reprendre des informations sur lesquelles je philosophe, entre guillemets.
Malheureusement. Hein, parce malheureusement, elles sont vraies. C'est ce qui me dérange le plus, on va dire.
Tout à fait. Tu voulais nous parler ce week-end,
j'ai eu l'occasion de voir le nouveau film de l'ère de glace, oui, Les aventures de Buck Wild.
Parce que si tu disais l'ère de glace, t'es en retard d'une décennie.
Bah oui, mais il y en a eu moult et moult. Mais celui qui vient d'être fait là avec les frères. Alors, pour tous les fans de l'ère de glace, vous savez que Dame Mammouth, qui a vécu son enfance comme élevée par une famille opossum, et elle a deux petits frères qui sont difficiles à aimer, charmants, mais casse-noisette.
Voilà.
Donc les frères opossum, Crash et Eddie, et ils se considèrent. Ben, comme certains journalistes, sûrs d'eux, intelligents, ils savent tout faire et ils sont bons pour tout, alors qu'en fait, ils ont toujours besoin d'être aidés. Donc, ils partent à la recherche d'un endroit à eux. Ils disent « Oui, mais c'est bien beau, la famille, mais moi, je sais faire tout seul. » Alors que dès le départ, tout ce qu'ils peuvent casser, abîmer, changer, c'est pour eux. C'en est tellement, tellement drôle. Et ils se retrouvent piégés dans le monde perdu. Oui. Où là, il retrouve la belette, Buck Wild, je ne sais pas si vous vous souvenez de la belette, avec son seul œil bleu. Et ensemble, ils sont dans une mission pour sauver le monde. Alors, ça rappelle un petit peu ce qu'on vit, c'est-à-dire que le monde que Buck Wild a essayé de créer, c'est un monde où tous ceux qui sont différents peuvent se rassembler et vivre ensemble. Ça nous rappelle quelque chose. Sauf que il y en a un qui est là avec un ego plus que surdimensionné, qui juge que c'est lui le roi le plus intelligent, le meilleur, le plus fort, et que les autres lui doivent obéissance. Ça m'a rappelé quelqu'un, mais je dirais pas son nom. Mais
pourquoi de qui tu parles?
Je sais pas. Politique, ouais, politique. Bref, donc c'est ça. Et donc, il estime que tout le monde doit être à ses pieds. Dès qu'il dit un mot, l'obéissance doit être là. Donc, c'est la bagarre dans tout ça, fait de façon extrêmement folle, dingue, oui, amusante.
Ludique, folklorique et amusante. Oui. Et divertissante, cherchez le mot.
Et on passe un super, super beau moment. Super bon moment.
Est-ce qu'il y a l'écureuil qui revient aussi ou pas?
Oui, il est là aussi.
Comment il s'appelle, Nicole Écureuil?
Moins voyant, je me rappelle plus non plus. Moins voyant, mais toujours là quand même.
Il ne faisait que 3 apparitions dans les films, mais ou 3 ou 4, mais c'était ça qui était très drôle parce que c'était des mini-films dans le film en fait.
Alors moi j'aime le tigre qui est toujours désabusé, qui est toujours extrêmement désabusé sur l'être humain, mais il est là, il est présent.
Ah oui, non, mais c'était une référence.
Et j'avoue que je me suis franchement amusée. Donc, hâte que quand ça va être sur nos écrans, allez le voir. Quoi. C'est un beau moment.
Toi, tu l'as vu pour ceux qui ont Disney Plus, à ce qui paraît, c'est déjà dessus.
Voilà. Donc on peut le voir de cette façon-là. Et sinon, attendez les cinémas la semaine prochaine.
Oui, je pense pas qu'ils auront beaucoup de nouveautés parce qu'ils avaient déjà beaucoup de nouveautés qui ont été arrêtées en décembre. Ouais. Hein. On en parlait hors antenne avec le Spider-Man.
Chut, Nicolas, ne dis rien.
Il y avait le nouveau Matrix, le 4, qui devait sortir aussi.
Ah oui, c'est vrai aussi. Oh là là, il y a plein de choses à faire à partir du.
Donc, il y en a quelques-uns, mais je pense.
Hein. Vous savez ce qu'on dit, hein? Mollo, mollo, mollo.
Ouais, mollo, mollo. Mollo avec les pop-corn, mollo.
Mollo avec les films, mollo avec les théâtres.
Mollo avec les restaurants,
mollo avec le ras-le-bol. Hein. Voilà.
Mollo avec la SAQ, défi 28 jours.
Pas de mollo avec la SAQ. Alors, on va partir en musique avec les Charbonniers de l'Enfer qui nous chantent « Le vent nous portera ». Tell you,
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera.
Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, lui. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera.
Et voilà, Jamin, nous sommes...
Ça sent le charbon.
À la fin. Joli. Nous sommes à la fin de cette émission, pratiquement.
Déjà.
Donc, eh oui, mais si elle est passée vite, c'est qu'elle était bonne.
Toujours.
Hein, c'est comme ça. Donc, merci à Myriam Charles. Elle était super sympa. C'était vraiment agréable de parler avec elle. On reparle de son long métrage qui s'appelle « Cette maison ». Merci à Jamin Chtouki pour son billet d'humeur qui nous fait toujours réfléchir et rire aussi. Merci Nicolas Wartmann pour la technique, pour les chansons. Et puis, merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Ça fait toujours plaisir. Puis, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et voilà.
Moi, je serai là la semaine prochaine seulement.
La semaine prochaine seulement.
Demain, j'ai autre chose de prévu.
D'accord. Alors,
je pense
à la
que tu
semaine
vas t'en
prochaine.
Sortir.
Merci à toutes et tous. Au revoir et bonne soirée.
Bye bye bye.